Paul-Éluard.
Parler. Les mots d'amour sont des caresses fécondantes. Les autres mots ne sont là que pour la commodité de la vie. Aimer, c'est l'unique raison de vivre. Et la raison de la raison du bonheur.
Ça peut pas faire de mal.
Vous obtiendrez toujours grand enchantement d'aimer, et même de la souffrance d'amour. Les plus grands des poètes ont affronté diversement, avec courage ou avec faiblesse, les difficultés de la vie. Mais leur chant d'amour relève l'homme de son bourbier.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Et si un jour je me dois de partir, de refermer les portes derrière toi pour ne plus m'apercevoir que je t'aime, et si un jour il fallait que je m'en retourne, que je doive quitter tes doigts qui me parlent pour ne plus me déguiser de ton visage, si un lendemain ou une veille tu me perds, à tant de murmures que répondre, à tant de lueurs dans tes yeux, ma bouche pendue à ton cou, perdue à ton corps, à tant de lueurs ardeurs, oublions les réponses et pardonne-moi. Pardonne-moi, mon amour, de m'appartenir de toi, dans toi. Avant de refermer le verrou et de m'enfuir, j'embrasserai ton regard, tes cils longs et recourbés. Je me donnerai au sommeil dans tes bras pour un dernier refuge, une ultime promesse que tu ne tiendras pas. J'emporterai le secret, le vertige de ce que tu me disais, lentement et tout bas. Sans doute de nous deux, c'est moi qui aime le plus fort, mais il faut partir avant, avant qu'il ne soit trop tard dans le cœur de tes bras, avant que tu ne m'oublies dans l'horizon du soir, avant que tu n'aies l'illusion de me posséder entièrement. Car vois-tu, je suis tout comme le vent qui caressera ton visage, pour toujours, et qui portera en lui la saveur de ta peau, où j'ai vu mon empreinte, mon image, une nuit, ou peut-être toute la vie. Ce poème s'intitule « Le sillage du soir venu ». Il a été écrit par une très belle jeune fille, pleine de promesses, née le 20 janvier 1970. Cette auteure précoce est ma cousine, Alicia Gallienne. Enfant, nous les cousins, nous étions tous amoureux d'elle, de son sourire frondeur, de ses cheveux longs, de ses yeux bleus sublimes. Affrontant son destin avec lucidité et courage, Alicia s'éteint au matin du 24 décembre 1990, la veille de Noël. Elle a 20 ans. C'est le jour de sa mort que j'ai décidé de devenir comédien, afin de transmettre les mots dont elle m'a donné le goût. Ce soir, 30 ans après sa disparition, je suis heureux de lire ses poèmes qui sont publiés depuis jeudi dernier, le 6 février, aux éditions Gallimard, sous le titre « L'autre moitié du songe m'appartient », dans une sélection de Sophie Nolot. Ce soir, et pour la dernière émission de « Ça peut pas faire de mal », je vous invite donc à découvrir ces textes intimes que je porte en moi depuis si longtemps.
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade.
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, écrivait Arthur Rimbaud. Mais à l'âge de l'insouciance et des premiers baisers, Alicia ressent la profonde gravité de la vie. Découvrons ce poème dédié à sa mère, intitulé « À propos d'un fauteuil et d'un arbre » et daté du 2 avril 1987. On dirait que les rôles s'inversent et que la fille apporte à la mère des paroles de consolation comme une provision d'amour pour l'avenir incertain. Pour toi, maman. Doucement, je reprendrai ma place dans le grand fauteuil qui s'endort. Le soir sera à la fenêtre, il dansera sur une chanson douce comme chantait ma maman. Il dansera jusqu'à l'étourdissement. L'arbre du jardin s'éteindra dans l'ombre et soupirera des prières pleines de feu. Mon âme s'abandonnera alors à ces psaumes silencieux qui embraseront ton nom. Oui, je serai là où mon bonheur habite, entre ces quatre murs où aboutit le regard de l'obscurité, où il n'y aura que moi et mon fauteuil, puis l'espace pour t'appartenir. Dire que je t'aime et je t'attends, c'est encore beaucoup trop de pas assez. Les étoiles enveilleuses et le ciel qui se fond me parleront de toi où que tu sois, je t'attendrai, assise avec mon cœur qui débordera. Oui, je sais que le moment viendra où tu me retrouveras. L'arbre du jardin s'épaissira tout à coup et éclatera mon attente figée ainsi que la fenêtre de vitre brisée. Des milliards de miroirs s'envoleront dans l'air du soir. Dans chacun, épris de mouvement, ta voix reviendra bercer mon enfance. L'arbre mystique qui connaît tous les chemins te rendra à moi pour la mémoire d'un voyage. Bois ma nuit éternellement. Dire que je t'aime et je t'attends, c'est encore beaucoup trop de pas assez. Dès ses premiers écrits, comme sous l'effet d'une extra-lucidité, Alicia semble dire adieu à ses parents. Voici le poème qu'elle adresse à son père le mois suivant, à la date du mardi 19 mai 1987. Son titre, Encore davantage. Encore davantage d'amour, celui qu'elle puise dans le regard muet de son père. Encore davantage de mots pour dire l'extrême pudeur de celui qui l'a accompagné de toute la force de son silence. À mon père. Le jour de la belle étoile et la nuit du grand soleil, dans le désert des paroles à peine prononcées, les yeux qui traversent le sommeil ont leur générosité. Mais les tiens sont encore plus purs que des jours ou des nuits. Tes yeux ouverts, je les aime plus et davantage qu'il n'y paraîtra jamais. Ils savent soulager sans dire et dire sans se refermer. Dans le secret des étoiles et les nuits pleines de lune, dans le réconfort de la sagesse et les lunes habitées, il n'est pas pour moi de meilleur refuge que tes yeux où toujours je me retrouve, sans jamais rien avoir à demander. Et quand tout a été donné, j'aime dans tes yeux trouver encore davantage, car tes yeux seuls sont inépuisables à m'aimer sous le ciel de l'été ou les jardins de l'orage. Lorsque la vie est une lutte de chaque instant, il est inacceptable de voir certains se saborder eux-mêmes. Toujours digne face aux effets dévastateurs des traitements infligés, la jeune femme, quant à elle, refuse toute capitulation. Faiblesse, je te hais de toi-même. Tu es la marque de l'insuffisance, tu es tout ce que je déteste le plus au monde. Faiblesse, tu fais prisonnier et tu blesses. Moi, je me fous de ces prisons-là, car c'est vous qui vous y enfermez de vous-même. Vous, c'est toi, petit amour déchu de son trône, petit amour, retournez à vos châteaux de sable avant d'avoir mangé toute la merde de ce monde. Faiblesse, n'oubliez jamais que je vous aborde au-delà des mots. On n'a pas le droit d'être faible, ni pour soi, ni pour les autres, car vivre, c'est être fort et accepter de tomber sous le poids de tout ce qui ne nous appartient pas, sans sourciller. Mes sourcils sont tombés, petit amour, le cœur les a soulevés comme des ondes de larmes qui ne viendront jamais. Pas de fleurs sur ta tombe, petit amour, mais tout le poids du monde. Faiblesse, tu ne peux pas me regarder en face car tu sais que je connais la vie et que j'ai payé le prix. Il n'y a pas de faiblesse admise lorsque d'autres tombent d'une fatalité qu'ils n'ont pas désirée. Lorsque d'autres trouvent dans la faiblesse les fleurs volées dans les cimetières, les fleurs immortelles de la puissance, de la force et enfin du respect. Faiblesse, je ne te respecte que dans la fatalité et l'horreur. Mais quand je te vois dans ce que la terre a porté de plus chanceux et de plus heureux, tu me fais vomir. Faiblesse, un jour ou l'autre, j'aurai ta peau, sans sourciller. Mes sourcils sont tombés, petit amour. Les cœurs les a soulevés comme des ondes de larmes qui ne viendront jamais. Pas de fleurs sur ta tombe, petit amour, mais tout le poids du monde. Écrire, c'est jouer avec le feu sans avoir l'antidote, écrit Alicia. En 1988, elle entreprend la rédaction du Livre Noir, un recueil sombre et lumineux, traversé par la question de l'écriture. En voici l'exergue. Ce livre est noir. Je le promets à tout ce qu'il me reste à écrire. Je le dédie à ceux qui sauront lire à travers les lignes, à ceux qui devineront peut-être ce que je n'ai pas su leur dire, à ceux enfin et toujours que je porte en moi. Ce livre est à la couleur du non-dit. Teinté de rouge et de feu, ces pages au ton libre et personnel laissent aussi transparaître le jaillissement de la vie. Comme un défi à soi, à la maladie, au temps compté, Alicia exprime son envie de vivre en laissant libre cours à ses pensées adolescentes, bouleversantes de sincérité. Gravement malade, on dirait que la jeune fille crie son innocence. Dans le passage suivant, son journal intime se métamorphose en manifeste littéraire où l'auteur interpelle son lecteur dans un « vous » complice, à la fois proche et lointain. En tête-à-tête avec elle-même, en tête-à-tête avec son lecteur du futur, Alicia revient sur les mots qu'elle a utilisés dans son exergue comme sur les termes d'un contrat intime passé avec la vie, l'écriture, la littérature. Je ne crains pas d'écrire. Il m'arrive seulement de redouter ce que j'écris et ce que je perçois. Personne ne devinera jamais combien la vie me fait peur, combien je lui échappe aussi. Quand j'écris, je me sens fortifié et comme très éloigné de ma propre inquiétude. Non, je refuse que l'on associe mes pensées à quelque angoisse existentielle. Ce n'est pas cela exactement. La vie, je le sais, est plus forte que tout et je me fais à son image. Dure et secrète est mon âme, mais toute force est limitée par elle-même et la vie, dans ce combat singulier, est toujours victorieuse. Elle avance au-devant de moi. Non, je ne crains pas d'écrire car là est toute ma vie, car là est mon bonheur et ma douleur parfois. Mais lorsqu'il m'arrive de frôler ces visages de l'existence que peu de gens connaissent ou réalisent, je me rends compte que ce n'est pas moi qui suis forte, ce sont mes mots. C'est tout ce que j'ai pour vivre intensément, c'est-à-dire plus vrai, plus fort que ce que le destin me réserve. Je suis déjà réservé aux voyages les plus fous, car je suis né pour me surpasser moi-même, car je suis né dans l'espoir de ne jamais mourir les mains vides. Ne voyez surtout rien de prétentieux dans l'expression « mes mots ». Je n'ai bien sûr rien inventé du tout, rien ajouté à ce que notre langue a de magie et de beauté. Je ne fais que de la surenchère, c'est tout. Je n'ai pas non plus la prétention d'innover en quelque domaine que ce soit. Nous mettrons donc tout cela sur le compte de mon orgueil personnel et sur le fait que je ne me suis jamais encore occupé de la postérité. Oh, je sais que je vais me rendre odieuse par ces propos, mais qui puis-je puisque c'est ainsi que je me ressemble? Cependant, je reconnais n'avoir jamais travaillé en écrivant. Le jour où ma poésie deviendra un travail en elle-même, elle ne sera plus et le mur se refermera sur moi. De moi, si vous êtes arrivé à ce point-là du livre noir, vous savez à ce jour presque tout. Deux solutions vous sont offertes. Soit vous me croyez folle et géniale, ce qui s'accorde à merveille en vérité, soit vous vous accordez à juger une relecture favorable à la compréhension approfondie des méandres de mon esprit, etc., etc., etc. Dans les deux cas, je m'en tire pas trop mal, et vous, pas bien du tout. Mais revenons-en à ce livre. Quelques précisions s'imposent. Ma dédicace ne doit pas vous surprendre. Le non-dit n'est absolument pas un oubli ou une esquive. C'est un avant-goût de l'idéal et de la perfection. Une terre sacrée entre vous et moi. Le non-dit, c'est comme la pudeur totale. La couleur du non-dit, c'est le noir. La seule couleur infinie, donc ce n'est pas seulement une couleur, donc c'est déjà plus qu'une couleur. La seule que je porte en moi pour toujours, car elle me ressemble. Le noir, c'est vivant, profond et dense. Ce sont les yeux fermés sur un trésor inavouable. Le noir a résolument un don de lucidité extrême car il possède mes yeux et la nuit pleine pour battre et s'amplifier avec des mesures car il possède à présent ce livre et tout ce que ma vie a fait de moi pour qu'il prenne corps et âme. Quant à ceux que je porte en moi, ce sont les gens que j'aime, à qui je dois mon ivresse et ma chance, à qui je dois d'être ce que je suis. Enlevez-moi l'amour que je leur porte et ôtez de moi le besoin d'écrire et je ne serai plus rien. Pour ceux que j'aime, de qui je reçois ma force, je donnerai tout et le reste. Car outre l'exigence qui m'habite et qui me condamne à la désillusion, je suis faite d'excessivité et d'abondance. J'ai un besoin vital de poésie et la réalité m'épuise à s'en démunir sottement. C'est étonnant tout de même que tout passe par la mort toujours et que tout y appelle son visage. Moi-même, j'écris beaucoup sur la mort, car elle n'arrête pas de m'appeler, et j'ai bien plus peur de la vie. Mourir à moitié, cela me paraît difficile, bien qu'en matière d'innovation, on ne sait jamais avec moi. Mais vivre à moitié, c'est une bien solide tentation. Vivre bien et fort, cela demande de se livrer corps et âme. Cela exige du courage et de la ténacité. Deux petites remarques encore avant de sombrer dans l'épuisement. La première, c'est que mes poèmes sont assez dangereux à lire à haute voix. J'ose humblement espérer qu'on saura lire mes pages avec art, dans l'espoir de rattraper ce qu'il manque d'ordre et d'agencement en elles. La seconde remarque, c'est à propos du retour fréquent et même parfois obsessionnel de plusieurs éléments, tels que les mains, les yeux, l'eau et les oiseaux. Je pourrais m'expliquer là-dessus, mais en tout cas pas cette nuit, car j'ai trop mal au poignet à force d'écrire. Quelques indices. J'aime chez les hommes leurs mains et leurs yeux. J'adore l'eau pour m'y noyer, mais juste ce qu'il faut entre la terre et le ciel. Quant aux oiseaux, c'est l'ivresse et l'aptitude de mon imagination. J'ai encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais il n'est pas dans mes intentions d'approfondir ce qui trouve sa force ailleurs. J'oubliais que ce soir, j'avais dessein d'écrire cette phrase pour moi seul et pour une peur qui refroidit mes rêves. Mon Dieu, faites que je ne perde jamais mes cheveux.
Plutôt que d'émouvoir, je crois en effet que le rôle du poète est d'exalter ce qu'il nomme.
André Breton.
Ce qui me paraît être le secret de la poésie, c'est la faculté, des parties à bien peu, de transmuer une réalité sensible en l'apportant tout d'abord à cette sorte d'incandescence qui permet de la faire virer dans une catégorie supérieure. Je crois qu'il suffit pour cela de grandes réserves d'amour.
Sous la plume d'Alicia, qui adorait Éluard, Apollinaire, Breton, s'invite aussi la fantaisie, comme surgit de l'autre côté du miroir. « A penny for your thoughts, my love », une pièce à l'eau pour te dissuader d'y plonger. Comme une parole à rompre la glace, je fais collection de larmes dans une boîte à musique asthmatique. « A penny for your thoughts, my love », je te partage mes mains qui ce soir ont si peur de leur propre insistance. Je fais collection des perditions pour ton revers glacé qui nuit, qui luit soudain dans la nuit. « A penny for your thoughts, my love », toi au mime et gestes désenchantés sur le volcan en sommeil où tu as couché mes illusions de braise et ta chaleur ravive la flamme d'un bougeoir pour écrire. « A penny for your thoughts, my love », pour isoler ta lune de jour qui t'occulte les yeux béants. J'ai si faim de ta bouche que la mienne tombe en désuétude. Je fais collection de mots insensés dans un coffre-fort percé de clés des champs. « A penny, my love, a penny for your thoughts ». La plage est déserte de mer, la saveur aride a desséché mes pas dans le sable ébréché. Un verre à ma bouche a éclaté sous pression. Je fais collection de larmes cueillies à fond de cale d'un bateau déboussolé. À peine, my love, à peine un mal de cœur. Si l'écriture l'accompagne, chaque jour, la lecture des poètes est un besoin vital. Parmi ses écrivains favoris figure le grand Charles Baudelaire. On se souvient de son célèbre poème « À une passante ». Dans un magnifique texte en prose, Alicia imagine une autre passante mystérieuse qui apparaît dans un décor parisien que l'on croirait tout droit sorti d'un film en noir et blanc. Découvrons cette séquence cinématographique qui évoque si bien la mélancolie et l'éloignement du monde. Le texte s'intitule « La rue » et porte la date du 30 décembre 1987. Cette belle inconnue, fragile comme une fleur, résonne soudain comme une sorte d'autoportrait en négatif. À la terrasse d'un café, un homme regarde l'évolution d'un monde qu'il ne connaît plus. Un monde avec ses gestes nobles et indigents, ses mouvements et ses incohérences. S'il avait été peintre, il l'aurait dessiné, mais ce monde-là aurait condamné à l'imaginaire et au sordide la fixité de l'image. Cet univers de poussière, cette reproduction immuable des mêmes symptômes de la vie, ce cafouillage d'instants éternels, c'était la rue. Perdu dans la foule, isolé dans ses songes, cet homme qui n'a pas de nom observe ce long cheminement anonyme de destins qui se mêlent et s'entrecroisent sur le pavé. Avec l'oubli de soi-même qu'impose parfois le vide ou le trop-plein de l'esprit, il regarde et s'enivre de solitude. En réalité, on lui avait appris à être seul. C'était comme une manière de ne pas être chez lui. Tout à coup, la nuit tombe comme un long manteau d'hiver. Les étoiles montent aux arbres et le ciel ferme boutique. Il n'y a plus personne dans la rue, sauf toujours cet homme, à la terrasse d'un café dont les portes sont closes. Plus rien que le silence et l'indifférence d'hier et d'aujourd'hui, dans un rêve de folie lucide et presque élucidé. Et sur ce boulevard abandonné aux déserteurs, elle apparaît, avec son visage d'enfant et son allure de femme amoureuse. Elle est belle, douloureusement belle pour l'homme dont le regard boit son ombre. Cette femme sans nom qui ne fait que passer et qui n'est pas tout à fait ni dans son monde ni dans celui des autres, est balayée par le froid intense qui se dégage des murs. Si elle était une fleur, elle serait sublime. Si elle était un parfum, elle serait envoûtante. Si elle était un paysage entier, elle serait généreuse et bienfaisante. Si elle était une œuvre d'art, elle serait parfaite et donc ne serait pas. Mais elle n'était qu'une femme et elle était fragile, comme une fleur, un parfum, un paysage entier ou même une œuvre d'art. Tout cela, bien sûr, il ne le voit pas car il ne voit qu'elle, et car il est dans la nature de certaines personnes de passer éternellement à côté de l'essentiel. Mais cela, c'est moi qui le dis. Au plus profond de sa rêverie, il sait pourtant quelle est la femme de sa vie. Il sait aussi qu'il n'essaiera pas de la retenir parce qu'elle a froid, qu'elle est pressée, et puis voilà. Quant à lui, il est seul depuis un bout de temps déjà, et la solitude est avec la mort le seul mal incurable. Elle a d'ailleurs également son agonie lente et destructrice qui ronge tout au-dedans, tout en sauvant les apparences. L'homme, étrangement, connaît son destin et le déroule sans surprise. Il n'a même pas l'air de souffrir, tant il est fasciné par la beauté et la démarche de la femme de passage. Il ne se demande même pas pourquoi il n'y a qu'elle là où, juste auparavant, la foule compacte sombrait dans la nuit. L'horloge indique la fin du temps, et l'homme serein finit son verre d'amertume, comme d'autres boivent leurs larmes, tout en suivant des yeux la femme qui l'abandonne. La rue passe à son tour, sans émotion. L'homme s'endort dans les brumes de l'aurore à peine éclose.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant là, j'avenais. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant là, j'avenais. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir qu'on vous. Cet amour ne vous déplaise. En dansant là, j'avenais. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant là, j'avenais.
Continuons à feuilleter ce recueil « L'autre moitié du songe m'appartient ». À Xavier, douceur de nuit. Faire le vide, se retenir d'espérer, oublier son regard, deviner l'emprise du silence sur soi-même, revenir au bord du chemin où je t'ai laissé pour imaginer la suite qui n'est pas venue, qui a oublié de venir sans doute. Le passé est un sourire incrusté quelque part, pourtant humain et palpable. Le passé qui se remémore l'avenir est si pleinement enfantin lorsqu'il commande un rêve, revenir sur un rêve que la vie a empêché d'éclore, par nécessité, revenir sur un manque d'enthousiasme, sur des larmes impatientes au bord des yeux. Pourquoi ne pas laisser jaillir la lumière, cette lumière qui gît inanimée, mais qui luit, quoi qu'il arrive. Rechercher une intensité d'existence dans ce qu'il y a de plus dénudé, comme par défi, mais toujours rechercher le dépassement, comme pour simuler la vertu, et puis ranimer un rêve s'il s'est endormi. Dans les rêves, je suis libre de revenir ou de me prolonger vers l'avenir avec le défaut d'innocence de ce qui n'aura pas lieu. Tant mieux sans doute, car c'est un peu mentir. Faire le vide dans l'attente de la reconnaissance, oublier la nuit pour l'étoiler et ne plus voir que des étoiles partout où l'on avance, sur des chemins de beauté où l'on se poursuit soi-même. Où l'on se poursuit comme un voleur de regard intense pour essayer de reconquérir le tien. Parfois je te vois seul, avançant sur cette route de terre, vers tout ce que je devine, lorsque tu fermes mes yeux, lassé. Je ne peux m'empêcher de te rêver à deux fois, de bien vérifier la force de ton silence, de tes yeux de lumière. Faire le vide sans doute, mais pour mieux vivre ton temps parallèle, qui bat à mes tempes comme une autre vie. Vous l'avez compris, Alicia était amoureuse, elle aimait les hommes, elle aimait la vie, et elle avait parfois les yeux plus gros que le ventre. C'est le titre de ce poème. Il y a ce déluge de mots que ma tête ne contrôle point, puis il y a surtout ce fleuve de désirs inassouvis. Il y a ma vie qui souffle, mise hors d'haleine, à l'aube, avant même le réveil. Il y a ma vie. Et moi, à côté, pour chaque jour, prostré dans le silence sans amertume, livré à une fatigue qui me dépasse. Ma vie a les yeux plus gros que le ventre, mais qui puis-je si mon corps s'arrête en marche, comme une machine que l'on a oublié de remonter. Me voilà en arrêt, au bord des réalisations simultanées, et ma tête continue de tourner à vide, d'imprimer des lettres aux calepins étoilés, d'entretenir les murs qui dansent. Parfois même mes pensées dissipent mon sommeil et le brume de voix liquéfiées portées au vide. Mes yeux d'argile, la nuit ne doit point défaire l'esprit de veille, c'est tout ce qu'il me reste d'insondable. Je veille à mon corps là, ici et ailleurs. Il y a ma fatigue à couper au couteau. Dans mes veines rôdent des superstitions, du vent frais de hautes fenêtres. Ma liberté toute crue réside dans un défi à moi-même. Sans moi, vous savez, je ne serai rien. Et ce défi, c'est de faire face aux miroirs ébréchés, étoilés même. Et ce défi, ce n'est rien laisser paraître au front de l'oubli grimaçant. Mes yeux sont si lourds et mon âme est si pleine. Que faire du poids des mots qui abreuvent mes doigts? Que faire de ma vie si neuve? Et je l'échangerai là tout de suite contre autre chose. Ce n'est pas en abuser, en désabuser, c'est fuir éternellement les regards glacés, les miens uniquement. Les vôtres ne regardent que vous au demeurant. Que faire de la pression abondante sur mon cou, sur ma nuque? Je ploie comme une légère ombre de moi-même. C'est fou, voici mes joues collées à cet herbier, et ces roses sans sève m'ont tout à coup écœuré. C'est comme le papillon encadré et leur aiguille plantée en cœur au cours de démonstration. Je ne peux plus supporter la vie, coquillage sans mer, sans plage, algues d'eau douce, la vie en forme de décoration d'intérieur. Et c'est vous qu'il faudrait décorer, redécorer même de certains ordres bien placés.
Vous réfléchissez des sentences stériles. C'est pareil pour les animaux que vous empaillez. La mort, ce n'est pas la vie suspendue, isolée dans son geste initial, dans son mouvement, prise au hasard d'un face-à-face. La mort n'a rien de figé ni de plaqué, ou alors je n'ai rien appris. La mort avance aussi, mais avant, il faut s'arrêter pour se regarder et attendre la lente dissolution de son corps. La vraie mort, c'est de jeter ce corps aux orties, sans sentir autre chose qu'un soulagement nouveau, et prendre congé des fausses apparences, puis des vrais qui les suivent de près, comme des ombres fraternelles. J'ai hâte de laisser ma vie au vestiaire des dissonances et de mettre mon corps en consigne. C'est la nuance impalpable à mes doigts. Je ne serai plus que la portée des mots, que la suspension du temps édifiant à jamais. Et j'irai de l'avant sans boulet de plomb. À mes rêves sans sommeil, il faut changer le ralenti de ma voix décalée. Mais vous n'en saurez rien et je ris du stratagème qui étouffe vos complots d'oisillons dépareillés. Il faut m'aider moi-même avant l'épuisement entier de ma faim insatisfaite. Pourquoi y a-t-il en moi la force nécessaire pour déplacer les montagnes qui me sont inaccessibles? Pourquoi ce vide creusé comme une tombe, comme un terrain de jeu pour des enfants sans ombre? Pourquoi cette richesse, ce don de mes mains qui écrivent encore sans lendemain? Alors que ma vie s'abrège des heures durant, alors que mes yeux tombent sans sourciller, il me faut cette force qui m'abandonne, il me faut la détourner, la retourner vers moi. Je me penche par terre, recouvrir la vie, et dans la flaque l'écho rouge me rappelle mon sang. Quelle épreuve couronne encore ma tête évadée comme une épée de Damoclès qui tombe goutte à goutte? Je me le demande sans trop grande insistance. La preuve, je n'ai pas mis de point d'interrogation. J'ai pris le parti de vivre au-dessus de mes possibilités. Il faudra alléger mon corps pour innocenter la marche et faire semblant de manquer de courage. Je m'isolerai aux rives de mon sang lisse et plat, torrent gisant, pourtant si beau la nuit tendue. Et ma fatigue intarissable ne prendra jamais le dessus au miroir. Plus que tout, je veux être digne de sauver les apparences. Plus que tout, je veux rire à ma glace feutrée d'abîme. L'ombre de mes pas est immense et mon bras a la lourdeur de l'enclume. Pourtant, il m'est donné d'avoir à soulever de larges pierres, des blocs de granit brillants. Ils ont dû se tromper dans l'équilibre des forces. Tant pis pour les jours sans promesse. Tant pis pour les lassitudes, véritable forteresse, attachant mon corps à sa vérité entrouverte. Mon ombre s'est rachetée et mes mots que j'écris adoucissent mon silence. Ils m'épargnent un destin en vase clos. Et si je parle de moi, c'est pour ne point me laisser filer à l'improviste. C'est pour me mettre à défi d'indécence. J'ai les yeux plus gros que le ventre. C'est vrai, mais je ne peux tout de même pas rétrécir le paysage aux dimensions de mes faiblesses. J'ai un miroir dans la poche pour le jour de ma différence. J'ai un miroir en moi toujours pour fluidifier les veines ouvertes et j'attends le rouge ondoyant des cheveux, le vol prématuré de l'équilibre. Je veux jongler avec moi-même pour casser les images d'hier qui encombrent les poches de mes yeux. Il y a des gens qui ont la lucidité de leurs intérêts. Moi, j'ai celle qu'il me reste. Je suis un peu comme un condamné à vie qui ferait ses petits paquets tous les matins en prévision d'une libération prévue en tête. Je suis aussi un peu l'incarcéré qui se repent de son évasion avant même de l'avoir planifiée. Mais ma vie a découvert, ma vie sincère à son cri, et tranchante au mystère. Mais ma vie sans concession, ma vie à l'abri de mots, tout cela ne tient qu'à un fil, et je le tends entre mes mains jusqu'à l'aurore divine de paraître puis de disparaître, en alternance avec le souci plus que légitime de voir venir les points de défraction, les limites des cieux rehaussés, ma vie synthétique. Il n'y a que l'ombre d'un détachable. Éternelle amoureuse, la soif de vivre d'Alicia se confond souvent chez elle avec l'envie d'aimer. Découvrons l'un de ses derniers poèmes d'amour adressé à Alvaro. Souvent la nuit, je viens te regarder dormir, de cette mort lasse qui frôle le bout des doigts, de cette petite mort qui peut toujours venir, elle ne te touche qu'à contre moi. Et je m'approche de ton corps mille fois interdit, je longe ta peau aigre douce, le miroir brisé de mes mains, te voilà évanouie dans des rêves grands comme des ballons d'enfant, et je pense à tous ces mots incrustés sur ton front qui lentement divaguent dans la danse d'une femme et dans la vague étreinte de son ventre. Le sommeil s'enroule autour de toi, statue vertigineuse, il ressemble à cette femme amoureuse. Tu m'asserres dans ta bouche mon deuil sans concession, ma pénurie d'audace, l'ombre lourde du passé, et je ne sais jusqu'où va l'amour après le silence. Aimer comme on a peur, comme on a froid, pour rivaliser chaque jour de sa vie avec la perte. Mes mains se souviennent des gestes que tu fais, des cachettes dans ton cou pour fermer mes yeux. Il y a ces mots que nous faisons sans oser les dire, et ces images que je bois dans ta bouche, comme après la pudeur appauvrie, délaissée à terre comme une robe défaite, cette robe qui prend toujours ta forme froissée de l'abandon. Je pense à tous les passants de ta vie, aux heures creuses de ta conscience qui étranglent un peu ma visibilité. Je descends le long de ton corps à découvert, à chaque marche de l'impossible aveu. Tu me chuchotes ton souffle éventé, des murmures de respiration, et c'est un peu comme si je t'entendais disparaître. J'ai fermé les portes sur toi, sur nous, pour que mes bras te suffisent au cercle de ton cou. Souvent par hasard, je viens dévorer ton sommeil, et les ongles rougissent de désir, s'enfoncent dans ton dos, comme les lignes de vie qui défraient la chronique. La nuit, je viens dérober ton lit, et je m'invente un corps contre le tien, pour enfermer ton sommeil en moi. J'aime oser de toi, mon amour. Souvent la nuit, je te regarde dormir, de cette mort lasse qui frôle le bout des doigts, et je m'accroupis devant ton corps, mille fois interdit, évanoui dans les rêves de quelqu'un d'autre. Tu souris en dormant, ange à pure perte, et je pense à ces morts incrustées sur ton front, qui lentement divaguent dans la danse d'une femme que tu aurais aimée pour rivaliser avec la perte. Tu m'insères dans ta bouche mon deuil illettré, ma pénurie d'audace, l'ombre lourde du passé, et je ne sais jusqu'où va l'amour, après le silence. Mes mains se souviennent des gestes que tu fais, des cachettes dans ton cou pour fermer mes yeux. Il y a ces mots que l'on fait sans les dire, et ces paroles que je bois dans ta bouche, comme après la pudeur appauvrie. Je pense à tous les passants de ta vie, aux heures creuses de ta conscience, qui étranglent un peu ma visibilité. Je descends ton corps à découvert, à chaque marche de l'impossible aveu. Tu me chuchotes ton souffle éventé, des murmures de respiration, et c'est comme si je t'entendais disparaître. J'ai fermé les portes de la nuit, sur toi, sur nous. Les fenêtres absorbent l'impatience d'un regard. Souvent je vais dévorer ton sommeil, et les ongles du désir s'enfoncent sur ton dos comme des lignes de vie qui défraient la chronique. J'avoue, j'en ai bavé pour vous, mon amour. J'avoue, tu en as bavé pour moi, mon amour. Viens si tu l'oses. Ose. Ose.
Je pense que
René Magritte.
Le monde est un mystère, et que le mystère, on ne peut rien en dire, et que donc on ne peut pas, ça ne peut pas être un sujet d'angoisse ni d'espérance. Nous sommes tous un mystère. Nous sommes une partie du monde qui est un mystère lui-même.
Avant de conclure cette émission, un poème qui m'est cher, car il est dédié à notre oncle Antoine. Un soir qu'Alicia, hospitalisée, était condamnée par les médecins, il n'y avait plus de traitement possible, la fièvre montait. Notre oncle Antoine a décidé de se poster devant la chambre d'hôpital d'Alicia pour empêcher la mort de rentrer. Ce poème s'intitule « Le gardien de nuit » et porte la dédicace suivante. À ma famille, à mon Tonio en particulier, car ce poème lui est destiné. Personne au monde n'avait encore donné sa nuit pour moi. Personne n'avait reconnu en moi le silence. Personne ne mérite plus que ceux qui ont donné simplement ce qu'il me manquait. Tonio, je te promets de veiller sur les oiseaux qui ont ton esprit comme un frisson au bout des ailes. Ils volent au-dessus d'une mer infinie. Un enfant recroquevillé à la dérive et quelqu'un au pied de la porte à le veiller. Lueur de la plus belle de toutes les lumières. Minute de la plus lasse de toutes les attentes. Entre eux, un amour et peut-être quelque chose comme l'éternité. Cette éternité totale qui porte la douleur et qui n'a que le silence pour s'enliser de promesses. Tout est passé, fini, tout a rejoint la nuit, comme un rêve infidèle et fautif. Seulement il reste un amour qui grandit, un amour qui est déjà plus que ce qu'il désigne, une porte entre deux, le pont des soupirs. Mais aussi la vie qui part sans maudire. La vie sans maudire, même pas une petite fois. L'enfant est loin, si loin qu'il n'a plus peur du retour. Il est dans une jolie boîte, il ne voit rien autour, ou du moins il ne désire rien voir. Seul l'amour, la fidélité s'impose. Ce sont les principaux sous-entendus que l'on garde, car il est des choses que l'on dit trop belles pour être vraies, vraies comme la solidarité, le don de soi. Comme toutes ces unions du cœur qui ramènent l'homme à ce qu'il y a de meilleur et de plus inavouable en lui. J'appelle cela l'intensité et c'est quelque chose que l'on ne peut oublier. Cette nuit, j'étais ailleurs et tu étais là pour moi. J'aurais bien pu ne jamais le savoir, mais maintenant je me souviens de ta présence. Souffle chaud contre mes songes vides, tu étais recueilli en moi et j'aurais tant voulu te le dire. Je ne sais pas ce que sera ma vie, je ne sais pas réellement vers quoi j'avance, mais ce soir en particulier, une évidence surgit de mon passé, c'est que l'on ne remplace pas l'attente, c'est que tout ce que l'on donne sans rien attendre en retour a des répercussions dans l'existence, des ondes d'abondance. Je n'ai rien reçu plus que cette nuit-là. Je n'ai jamais été autant protégé, car tu veillais sur moi assis dans le noir, et que cela suffit pour faire d'une vie un merveilleux espoir. S'il faut partir en emportant l'essentiel, il restera toujours mon amour avec moi, cet amour que l'on m'a forgé de toutes pièces quand j'en avais tant besoin, cet amour qui m'a soutenu et qui m'a dit « reviens ». Je reviendrai à mon tour veiller sur toi et allumer les minutes de patience et d'oubli. Oui, oublier que dehors l'on n'a pas sa place et que dedans il fait parfois si froid. Je reviendrai sur cette nuit-là où tu prenais le repos en moi, où tu me cherchais pour que je te tienne compagnie, où tu me cherchais pour ne plus te trouver seul, au bord des chemins où partent les trains, les adieux, les sommeils et les grands yeux tristes. Je reviendrai pour te ramener et te dire tout bas que l'amour n'a que la force du silence et d'une infime présence portée au fond du vide. L'amour est un mot usé et banal parce qu'on en a fait de tout et c'est dommage, mais il reste encore la substance au bord du chemin où la vie se succède à elle-même avec la hantise du lendemain. L'amour, je veux que cela soit dans ma vie, tous les instants où j'ai partagé ma force, tous les instants où l'on a vécu pour moi, à ma place, tous les instants où juste une présence suffit, où juste le silence est l'unique prière, où l'on porte l'enfant qui s'est endormi dans ses bras, où l'on prie pour que son sommeil aille plus loin que les oiseaux. Avant de refermer cette émission, écoutons un émouvant et lumineux poème. Si la nuit et les étoiles parsèment l'univers poétique d'Alicia, dans la sphère familiale, une autre étoile s'est évanouie. Il s'agit de son frère aîné, Eric, né en 1957 et décédé d'une leucémie à l'âge de 20 ans. Achevé le 30 mars 1990, après de nombreuses versions, ce texte, l'adieu perdu, résonne comme un adieu à la vie et l'annonce de célestes retrouvailles. Alicia s'éteint 9 mois plus tard. Ne touchez pas à ma petite bête épaisse, ma douleur. Ne touchez pas aux plus beaux yeux du monde, que j'ai fermés longtemps pour ne plus les voir. À toi, goutte de sang qui manque un jour, dans le corps infirme et langoureux de la vie. À toi, tout ce qui ressemble à l'innocence, ces mots à déplier au vent comme un mouchoir de larmes sèches. Ne touchez plus à mon enfant perdu, il est quelque part implorant le silence. Si seulement ta mort ne m'était qu'une seconde. À toi, ces cris que je ne peux pas pleurer vraiment. À toi qui jouais jadis avec mes doigts comme avec des bonbons tendres de l'enfance à genoux. Ne secouez plus mon arbre de ses mains pour monter au ciel. La nuit, il y vient des oiseaux inconnus qui portent dans leurs ailes des bruissements de la terre. Vous comprenez? Il y vient des oiseaux. Ne touchez pas à l'infini moins un que j'aime. À toi mon caillou, ma pièce d'or de la fontaine, ce qui brille dans le puits de boue. À toi ma blessure enivrée, ma lune à boire. Ne touchez plus à notre reflet pour les enfants heureux. Tu es la morsure au creux de ma main. Dormons. Et enfin ce poème, véritable credo qui m'accompagne depuis 30 ans, que je porte toujours sur moi et en moi. Il n'y a pas moyen de concurrencer Dieu, ni moi, ni personne. Il y a seulement un moyen de se concurrencer soi-même et de s'affranchir par-delà les limites pour se témoigner à chacun le don de la vie, qui vient d'on ne sait où, qui aboutit autre part. Mais de vous, mon Dieu, je ne sais rien, si ce n'est les contours tranchants du doute, si ce n'est les éclaircissements de l'amour qui renouvellent chaque jour votre substance. Tout le reste n'est qu'incohérence.
Ça peut pas faire de mal.
C'était la dernière émission de « Ça peut pas faire de mal ». Elle a été réalisée par Xavier Pestudia, avec à la technique Claude Niort. Elle a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tesser. Je vous rappelle que le recueil d'Alicia Gallienne, « L'autre moitié du songe m'appartient », est actuellement disponible aux éditions Gallimard, avec une préface de Sophie Nolot. Un grand merci à elle, et merci à Franck Fertil et André Velter. « Le courage, c'est renouveler le doute », disait Alicia, pour sa prochaine édition du 7 au 23 mars dédiée justement au thème du courage avec Sandrine Bonner comme ambassadrice. Le Printemps des Poètes organise une soirée exceptionnelle. J'aurai l'honneur de lire une sélection des poèmes d'Alicia Gallienne en compagnie de la magnifique comédienne Marina Hans, du grand violoniste Renaud Capuçon et du pianiste Guillaume Bellhomme. Ce sera le dimanche 8 mars à 20h30 au Théâtre de l'Athénée Louis Jouvet. Vous pouvez dès à présent réserver vos places sur le site du théâtre www.athénée-théâtre.com et vous trouverez toutes les informations sur le site www.printempsdespoètes.com. À partir de la semaine prochaine et jusqu'au mois de juin, je vous invite à réécouter une sélection des premières émissions de « Ça peut pas faire de mal ». Merci pour votre fidélité pendant 10 ans. Bonne soirée sur France Inter.